bonjour à tous. Dès la nuit prochaine, confinement acte 2, c'est la réponse à l'épidémie de Covid-19 annoncée hier par Emmanuel Macron. Confinement sur tout le territoire jusqu'au 1er décembre pour protéger les plus fragiles, les plus jeunes, les plus modestes et les soignants. Il sera néanmoins moins sévère que le premier. Les déplacements sont limités. Travail, courses de première nécessité, soins médicaux, assistance à un proche, promenade d'une heure dans un rayon d'un kilomètre autour de son domicile. Ce qui signifie également le retour des attestations de sortie. Mais cette fois-ci, a précisé le chef de l'État, les écoles, collèges et lycées restent ouverts. Les EHPAD peuvent également accueillir des visiteurs. Le président de la République appelle à la vigilance, à porter le masque même chez soi face à une deuxième vague, sans doute plus meurtrière que la première, a-t-il précisé. Des mesures supplémentaires ou des aménagements en fonction de l'évolution de l'épidémie seront étudiées dans 15 jours. Pour ce qui est de l'impact de ce reconfinement sur l'économie, le quoi qu'il en coûte se poursuivra, a annoncé Emmanuel Macron. L'économie ne doit ni s'arrêter ni s'effondrer, c'est pourquoi il invite les entreprises à généraliser le télétravail. En revanche, les commerces non essentiels, comme les bars et les restaurants, devront fermer. Un plan d'aide spéciale sera d'ailleurs dédié aux travailleurs indépendants, commerçants, ainsi qu'aux TPE, T et PME. Le reconfinement va provoquer des dégâts économiques et humains considérables, alerte déjà le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux. Du côté de l'épidémie, elle progresse toujours en France. Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés en réanimation a dépassé hier la barre des 3000, un niveau inédit depuis début mai. 244 nouveaux décès enregistrés à l'hôpital et plus de 36 000 nouveaux cas positifs dépistés ces dernières 24 heures. Et puis dans le reste du monde, à Philadelphie aux États-Unis, un couvre-feu a été décrété après les violences des nuits dernières lors de mouvements de protestation pour dénoncer la mort d'un homme noir abattu par la police lundi. Donald Trump, en pleine campagne pour sa réélection, a critiqué le maire, l'accusant de laisser faire.
Former, réagir, le matin sur France Culture, Guillaume Erner.
Et oui, chaque jour, les matins de France Culture vous informent et éclairent l'actualité dès 6h57. Retrouvez vos rendez-vous du billet politique à la revue de presse internationale. L'information est au rendez-vous sur France Culture.
Les matins de France Culture, du lundi au vendredi de 7h à 9h et sur franceculture.fr.
Un éclairage quotidien, les enjeux internationaux sur France Culture. Julie Gacon.
Chaque matin, un éclairage sur un fait de l'actualité internationale, le monde exploré à toutes ses échelles, du local au global. 10 minutes avec un chercheur, une chercheuse, pour renouveler notre regard sur le monde, resituer un événement dans sa perspective historique, évaluer sa portée et en imaginer l'avenir.
Les enjeux internationaux, de lundi à vendredi à 6h45 et sur franceculture.fr.
Il est 6h03 sur France Culture, le temps du monde vivant avec Bruno David. Et le thème ce matin, la mémoire dans la peau.
Beaucoup d'entre vous vivent avec des animaux de compagnie, que ce soit des chats, des chiens, des poissons rouges ou des canaris. En outre, depuis quelques années, le public est devenu familier avec la notion de microbiote intestinal. Donc vous savez que vous vivez avec les bactéries de votre tube digestif ou celles de votre flore cutanée. Mais saviez-vous que vous transportez en permanence des animaux? En l'occurrence, des Demodex. Sous ce nom de Demodex sont regroupées 65 espèces d'acariens qui vivent dans la peau, à proximité ou dans les follicules pileux, poils et cheveux de nombreux mammifères. Ils font partie des plus petits arthropodes existants. Deux espèces ont élu domicile chez les humains. Demodex folliculorum s'installe de préférence dans nos follicules pileux, et Demodex brevis habite juste à côté, dans la glande sébacée associée aux follicules. Ils convient parfois leur cousin Demodex canis, qui normalement habite chez le chien, à venir nous visiter, surtout en cas d'immunodéficience. Le Demodex folliculorum mesure en gros entre 1 et 5 dixièmes de millimètre. Il est presque transparent, autant dire qu'on ne le voit pas. L'abdomen fiché dans le follicule, il se nourrit du sébum et de cellules mortes, généralement aux alentours du nez, des cils et des sourcils. Penchons-nous sur la bestiole. Son premier segment est pourvu de 8 petites pattes résiduelles avec lesquelles il peut se déplacer lorsqu'il quitte son follicule pour en gagner un autre. Le Demodex n'a pas d'anus. Heureusement pour nous, tous ses déchets sont uniquement gazeux. Les enfants naissent sans Demodex et récupèrent peu à peu ceux de leurs parents. Cela prend du temps, ce qui fait que les enfants en ont très peu. Puis la population de Demodex augmente en nombre à l'adolescence et 100% des adultes en ont. Une étude américaine publiée en 2015 a comparé les relations d'apparentement génétique de 70 Américains d'origine généalogique variée, Afrique, Asie, Europe, Amérique latine, et les relations d'apparentement de leur démodex. Bingo ! Les apparentements entre démodex étaient un calque parfait de ceux de leurs porteurs. Les démodex des Américains originaires d'Asie étaient regroupés entre eux, pareil pour ceux des Américains originaires d'Europe, etc. La leçon de cette découverte, c'est que les démodex se transmettent verticalement, de parents à enfants, et très peu horizontalement entre adultes, sauf entre époux qui entretiennent des contacts étroits. En outre, l'étude montre que sur un individu humain, leur population reste stable tout au long de la vie. Tout ceci à tel point que les démodex habitant des Américains d'origine asiatique et africaine ont des signatures génétiques qui remontent à avant leur arrivée sur le continent américain. Les démodex sont casaniers, et leur évolution reflète donc l'évolution ancienne des humains qui les portent. Vous pourriez être horrifié d'héberger des acariens à huit pattes toute votre vie. Et vous auriez très bien pu ne jamais le savoir. Sauf si vous écoutez France Culture.
Matière grise et café noir, 6h-7h, les petits matins de France Culture. Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le réveil culturel. À l'approche des élections présidentielles aux États-Unis, toute cette semaine, on parle de l'Amérique qu'on aime et de nos rêves américains. Mais existe-t-il un French Dream, un rêve français pour les Américains? Écoutez ce qu'un des plus grands arrangeurs de musique pop américaine du XXe siècle a dit à ce propos. En France, j'ai enfin pu embrasser mon passé, mon présent et mon avenir en tant qu'artiste et homme de couleur. Et j'ai étendu ma perception de la condition humaine, tant dans le domaine artistique que dans la vie. Grâce à la France, je me suis enfin senti libre et heureux d'être moi-même. De qui s'agit-il? Je vous laisse deviner un peu. Cet immense artiste américain a eu une longue et fructueuse histoire avec la France et les éditions Frémaux et Associés ont eu la bonne idée de sortir en CD un de ses concerts mémorables en France à l'Olympia le 14 mars 1961, le jour de ses 28 ans. Mon invité ce matin, le spécialiste de jazz Michel Brier, n'y était pas, mais il sait à peu près tout de ce concert mémorable.
Le réveil culturel. Jeudi, musique.
Alors, si vous avez répondu Miles Davis, vous avez perdu. Je suis désolé, il s'agissait bien sûr de Quincy Jones. Bonjour Michel Brier.
Bonjour Tofik.
Vous êtes spécialiste de jazz. Vous avez connu les meilleurs amis de Quincy Jones en France, puisque vous avez commencé à travailler avec eux, hein, avec Daniel Filipacchi, avec Frank Tenno, oui, qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup fait pour Quincy Jones à l'époque où ils étaient les maîtres du jazz en France.
Alors, en fait, ils étaient très amis. Daniel Filipacchi et Quincy Jones étaient très amis depuis dès l'arrivée de Quincy à Paris, il a dû venir une fois avant avec un big band, mais en 57 il vient étudier la composition musicale avec la grande professeure Nadia Boulanger, et là il s'installe à Neuilly dans un petit appart, et dès cette année-là, par exemple, on voit une couverture du magazine Jazz Magazine qui vient d'être acheté à Eddie Barclay et Nicole Barclay par Daniel Filipacchi. Et sur cette couverture, il y a Quincy en maillot de bain dans la mer, dans la Manche à Cabourg. C'est bien, ça doit être ça. Et avec sa petite fille sur le dos. Et c'est Daniel qui a pris la photo et il a mis cette magnifique photo en couverture de son magazine. Donc déjà là, ils sont là.
Vous dites que ce concert à l'Olympia en 1961 est un concert important parce que il marque un tournant dans la vie de Quincy Jones. Il ne sera plus musicien de jazz, mais il va être aussi arrangeur à partir de là.
Je crois que c'est à ce moment-là que il prend conscience que c'est un boulot. Et que il faut qu'il travaille et qu'il développe ses talents. Alors qu'avant c'était un peu un dilettante. Il avait beaucoup de capacités pour l'arrangement. Il avait des copains. Il était très copain avec Ray Charles. Il a fait l'album avec Ray Charles, les arrangements de Quincy Jones, qui est un très bel album. Et il a fait Genius plus Soul Egal Jazz aussi, qui est un autre formidable album de Ray Charles. Cette aventure parisienne et ce qui reflète ce concert pendant laquelle il a erré pendant presque 2 ans avec un big band en crevant la faim, en faisant des petites gigs un peu à droite et à gauche, ça l'a fait penser. Il a grandi. Et donc en rentrant aux États-Unis après cette prestation quelques mois plus tard, il a dit je me mets au boulot. Et il a commencé à arranger pour tout le monde, pour aussi bien pour du jazz, qui était toujours son petit jardin secret.
Que la chanson populaire, la
pop. Pour la chanson populaire, la pop, Leslie Gore, It's My Party, Peggy Lee, il a fait feu de tout bois.
Alors, est-ce qu'on peut dire, Michel Brier, que le Quincy Jones arrangeur, le grand arrangeur qui va produire au début des années 80 l'album du siècle, c'est-à-dire le Thriller de Michael Jackson, cette vocation est née en France? Parce que ce qu'on apprend dans votre texte qui accompagne donc ce disque et ce concert de 1961, c'est que, d'accord, il y a eu Daniel Filipacchi, Frank Thénault et Eddie Barclay qui l'a pris sous sa coupe, mais surtout c'est une femme qui décide d'utiliser Quincy Jones comme
Nicole
Barclay. Elle sent, elle flaire que cet homme-là, ce musicien-là, pourrait faire des arrangements pour la musique populaire, pour la variété.
Elle est un peu aidée quand même. Hein. À l'époque, Nicole Barclay, qui était vraiment l'âme artistique du label Barclay, Eddie est en plus l'homme de
mondain,
dans le mondain et peut-être un peu le business quand même. Hein.
Ouais.
Enfin non, Nicole était très businesswoman. Elle avait un pianiste sous contrat qui s'appelait Billy Eckstein, et donc elle discute avec Billy Eckstein et elle dit j'ai besoin d'un mec qui pourrait m'arranger pour tous mes artistes. Là j'ai Barclay, j'ai Brel, j'ai Aznavour. Qu'est-ce qu'on fait? Eckstein lui dit appelle Quincy Jones. Elle appelle Quincy Jones. Allô, bonjour, Nicole Barclay. Bonjour, hello. Est-ce que vous voudriez venir travailler pour moi en France? Et Quincy, on en reviendra sur l'image de la France pour les Noirs américains. Quincy dit, oui, mais est-ce que je pourrais arranger avec des cordes? Parce que c'était son rêve, c'était de faire des... Alors que lui, c'est un mec de big band, le plus
sorcier black,
le plus vague. Il voulait faire des arrangements avec des violons, ce type. Et Nicole lui dit, my darling, mais en France, vous pouvez faire ce que vous voulez.
On est en quelle année, Michel Brier?
On est en 58.
The Midnight Sun Will Never Set de Quincy Jones en live à Paris, à l'Olympia, le 14 mars 1961. Michel Brillé, vous qui êtes spécialiste de jazz et directeur de collection, ce morceau, il l'avait composé pour Henri Salvador parce qu'il avait autour de lui le tout Paris qui comptait, hein, c'est-à-dire Boris Vian, Henri Salvador, Brigitte Bardot.
Mais c'était fou, c'était incroyable. Il était vraiment arrivé par hasard dans cet univers. Alors moi, c'est un peu une marmite incroyable de bouillonnante de talents divers, Vian comme vous le dites, et puis cet univers était un peu sous l'égide de ceux que j'appelle les rois mages du showbiz de l'époque, c'est-à-dire pour le spectacle, c'était Bruno Cocatrix avec l'Olympia. L'édition musicale, c'était Eddie Barclay avec son label, qui était le label en top niveau de l'époque. Et pour les médias, Lucien Maurice, le directeur des programmes d'Europe 1 et Radio, qui diffusait l'émission de jazz de Daniel Filipacchi, pour ceux qui aiment le jazz.
Et la presse aussi, hein, parce qu'il y avait aussi le
Jazz Mag.
Si on parlait de ce rêve français pour ces musiciens noirs américains, Michel Brillé.
Ça, c'est un truc qui, alors, à chaque, moi, j'étais trop petit pour les connaître personnellement, même si j'en voyais quelques-uns qui défilaient. Dans toutes les mémoires de tous les musiciens de jazz américains de cette période, à commencer par Quincy, avec les magnifiques hommages à la France que vous avez cités tout à l'heure, c'était pour eux, les gens disaient, mais va en France, Memphis Slim. Je me souviens, Memphis Slim, par exemple, le grand bluesman, il est venu en France parce qu'il était copain avec Big Bill Bonzi, qui est un autre grand du blues américain, et que Big Bill lui a dit un jour à Chicago, il dit, Memphis lui dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Il dit, mais va en France. Il dit, oh, bon, pourquoi la France? Il dit, en France, c'est pas compliqué. Tu vois une femme qui passe à bicyclette devant toi, tu prends une bicyclette et tu la rattrapes, et ça marche. Et donc, c'est pour ça que Memphis Slim, c'est ce qu'il raconte, hein, est venu en France. Mais c'était un paradis de liberté parce que les Noirs américains avaient une aura particulière, notamment auprès de l'intelligentsia de Saint-Germain-des-Prés, mais ils se sentaient totalement libres, à la fois sur le plan des relations personnelles. Ils ne sentaient pas la chape de plomb qu'il y avait aux États-Unis à l'époque, voilà. Et peut-être encore aujourd'hui.
Mais il faut nuancer quand même, hein. Il y avait effectivement cet engouement pour le jazz et pour les musiciens noirs américains qui étaient bien accueillis à Saint-Germain, mais Quincy Jones, pour ce concert en particulier à l'Olympia en 1961, il raconte quelque chose d'assez incroyable, c'est-à-dire que on est en pleine guerre d'Algérie, la guerre d'Algérie dans sa dernière phase, c'est-à-dire la phase la plus violente, le conflit s'est déplacé en France, et la presse américaine, le jour du concert de Quincy Jones, prévient tout le monde en disant, surtout faites attention à partir de 18h, si vous êtes basané, ce n'est pas bien.
Il vaut mieux rentrer chez soi. Ouais.
Voilà, et des musiciens de Quincy Jones, qui n'étaient pas des Algériens, parce que là il s'agissait bien du conflit algérien, ont été arrêtés, ils n'ont pas pu jouer.
Oui, c'est ce que...
Donc il y avait les deux en même temps.
Il y avait les deux, et cette ambiguïté. Mais ça me fait penser à un autre truc, c'est que vous savez que le 17 octobre 1961 a eu lieu à Paris une gigantesque ratonnade d'Algériens qui manifestaient pour...
Pacifiquement,
tout à fait.
Et, pour l'indépendance de leur pays, certains ont été jetés dans la Seine.
Voilà, absolument. Et le lendemain, Ray Charles est arrivé en France pour faire un concert au Palais des Sports. Or, la plupart des manifestants qui ont été arrêtés ce soir-là ont été parqués au Palais des Sports. Et le lendemain, donc, Ray Charles a retrouvé cet endroit pour faire son premier concert. Il paraît même, dit-il, qu'il y a eu des contacts avec des émissaires du FLN qui ont garanti à son équipe qu'il n'y aurait pas de problème, qu'ils pouvaient jouer. Le FLN a donc dit à Ray Charles, OK, pas de problème, vous pouvez jouer.
Pour revenir à Quincy Jones, Quincy Jones n'était pas très politique, on peut le dire.
Non.
Oui, c'était la musique, la vie, les femmes, beaucoup aussi.
Beaucoup.
Ouais. Et puis, qui a décidé de l'appeler Q?
Mais c'est toujours la même époque, c'est cette époque bénie où il se balade avec Eddie Barclay, il fait des dîners incroyables donc dont on a parlé tout à l'heure, et puis un jour au bureau d'Eddie Barclay, le téléphone sonne et bonjour, c'est le secrétariat du prince de Monaco. Nous voudrions inviter Quincy Jones pour diriger l'orchestre qui va accompagner Frank Sinatra pour un gala de charité. Alors évidemment, c'est oui. Et donc Barclay et toute sa bande filent au Sporting Club de Monaco pour préparer cette prestation exceptionnelle. Donc Sinatra arrive, toujours très précis, etc. Les répétitions ont lieu. Il dit pratiquement pas un mot à Quincy Jones, qui était un peu dans ses petits souliers. Hein. C'était important pour lui, Sinatra. Hein.
Oui, c'était leur voix.
Donc le spectacle a lieu, tout se passe très très bien. Et à la fin du spectacle, Sinatra va voir Quincy Jones, il tape sur l'épaule, il fait « Nice work, Q. Bon boulot, Q. » Et c'est comme ça que le surnom est parti.
Quincy Jones à l'Olympia, un 14 mars 1961, à 18h, puisqu'il y avait deux concerts ce jour-là de Quincy Jones et de son Big Band. Ils étaient combien sur scène, Michel Brézé?
Entre 15 et 18, mais il faudrait que je recompte.
Et là, qu'est-ce qu'on écoute de ce
Monin, c'est le thème de Bobby Timmons, que les Jazz Messengers avaient fait découvrir... quelques années auparavant, 2-3 ans je crois, et qui est toujours l'un des classiques du soul jazz, quoi.
Est-ce qu'on peut dire que c'est le dernier grand moment jazz de Quincy Jones, qu'après ce concert, après cette tournée, il va devenir le grand arrangeur de la pop music?
Il va quand même rester assez proche de ses racines, parce que plus tard dans les années 70, il fait des albums formidables pour une marque qui s'appelle CTI, Gula Matari, Walking, etc., Killer Joe, tout ça c'est 69-68, ça sonne vraiment très très bien aussi, il n'a pas perdu la patte. Hein.
Et aujourd'hui, Quincy Jones, il est où?
Il doit être chez lui, 87 ans. Il doit être chez lui quelque part entre Malibu et... je crois qu'il vit un peu sur la côte ouest. Il se balade un peu, peut-être sur un bateau aussi, aux Bahamas. Ça doit pas être exclu, ça. Hein. Mais je me fais pas trop de soucis pour lui. Hein.
Alors, c'est quoi la spécificité de Quincy Jones pour vous, Michel Brier? C'est celui qui, venant du jazz, a réussi à devenir le grand arrangeur de toutes les musiques populaires du XXe siècle?
Je crois que c'est un type qui s'est laissé guider par son instinct, par sa versatilité, son adaptabilité aussi, je crois. C'est un formidable artisan de la musique et il a su capter chez les uns et les autres ce qui était important à mettre en valeur. Chez Michael Jackson, il a reniflé le talent, le génie de ce mec pour le mettre en valeur. C'est ça son grand talent.
Il a fait aussi quelques bandes originales. Il a travaillé pour le cinéma. Il est passé à côté de quelques grands films, comme Ascenseur pour l'échafaud.
Oui, il pouvait pas. Donc,
il pouvait pas.
Mais il a donné ça à un copain.
Voilà, un copain. Et puis, mais en revanche, il a fait quelques films américains très importants, comme Dans la chaleur de la nuit, par exemple.
Oui, il a fait La couleur pourpre avec Spielberg. Et il a fait pour moi un truc assez formidable qui s'appelle De sang froid sur l'œuvre d'après l'œuvre de Truman Capote. Il a fait la musique, le score de ce film. Et si vous le trouvez un jour, écoutez-le, c'est impressionnant.
Le réveil culturel. Tous les matins de la semaine, tôt à la radio ou quand on veut sur franceculture.fr.
Ça, c'est pour vous faire plaisir, cher Michel Brier.
C'est sur ces notes de Count Basie, le morceau Rat Race, arrangé par Quincy Jones, que j'ai fait la rencontre peut-être la plus importante, celle de Daniel.
Daniel Filipacchi. Vous n'êtes pas un enfant du rock, vous êtes un enfant du jazz. De cette belle période du jazz.
C'est la même chose.
Ouais, c'est la même chose.
Un peu.
Alors, comment êtes-vous arrivé, justement, Michel Brier, à rencontrer tous ces grands ténors du jazz que sont Franck Teno et Daniel Filipacchi?
Mais c'est par hasard, tout fixe. Vous savez, c'est un truc, c'est formidable, ce métier, parce que ça se fait un peu encore, je pense, avec une certaine spontanéité. Et à l'époque, Europe 1, c'était le royaume de l'improvisation et de l'instinct. Donc je l'ai rencontré par hasard, parce que mes parents habitaient à côté. Et au bout d'une heure de conversation un peu à bâton rompu, il m'a dit « Bah tiens, Daniel me dit, bah, cherche des mômes de ton âge pour présenter l'émission avec moi, est-ce que ça t'intéresse ?» J'ai fait « Ouf !» Et alors, il m'a dit « Mais tu sais, tu seras payé !» Et voilà, c'est parti comme ça.
Et maintenant, vous êtes directeur de collection, et c'est notamment grâce à vous qu'on peut retrouver en CD ce concert de Quincy Jones à l'Olympia en 1961. C'était le jour de ses 28 ans, hein.
Ouais.
C'était aussi ça.
Bel anniversaire.
On n'y était pas, mais avec le disque, avec le disque et votre texte, c'est presque si on y était.
C'est gentil.
Merci d'être passé ce matin.
Merci à vous, Toufik.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Sur France Culture, la transition se conjugue au quotidien avec Hervé Gardette.
Réchauffement climatique, épuisement des ressources, érosion de la biodiversité, nous savons tous désormais à quoi nous sommes confrontés. Mais nous ne savons pas toujours quoi faire, ni comment. Pourtant, nos modes de vie sont en train d'être bouleversés par ce basculement. Tous les jours, dans les matins de France Culture à 8h45, je vous livre mes observations, mes réflexions et je vous fais part de mes lectures dans la transition.
Sur France Culture, la transition de lundi à vendredi à 8h45 dans les matins et sur franceculture.fr.
France Musique vous offre un bouquet de 9 web radios. Classique, jazz, musique de film. Avec la toute dernière née, opéra, entrez dans l'univers magique du chant, des histoires passionnées. Carmen, La Traviata, Tosca. Opéra à écouter gratuitement sur francemusique.fr et l'application Radio France.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Adrien Toffolet. Bonjour.
Bonjour à tous. Un nouveau confinement, car nous sommes submergés par la deuxième vague de Covid-19. Mesure annoncée hier soir par Emmanuel Macron. Son entrée en vigueur est prévue la nuit prochaine pour une durée d'un mois. Mais il sera moins sévère qu'en mars, précision de Pierre Neveu. Le président de la République demande également la généralisation du travail. Toute l'économie qui ne relève pas de la première nécessité sera néanmoins fortement touchée. Le soutien de l'État sera au rendez-vous, mais les entreprises sont inquiètes. Explication d'Annabelle Grelier. Et puis direction les États-Unis où Donald Trump et Joe Biden de rallier un électorat clé, les latino-américains. Reportage en Arizona, signé Benjamin Ely. Les efforts déjà concédés ont été utiles, mais ce n'est pas suffisant pour lutter contre la deuxième vague de Covid-19. Ce constat posé en introduction de son allocution hier soir, Emmanuel Macron annonce le reconfinement de tout le territoire à partir de demain et jusqu'au 1er décembre. Le président de la République a joué franc jeu, détaillé pourquoi aucun autre scénario n'était possible. Un coup de frein brutal, dit-il, est la seule option pour épargner les plus fragiles, les plus jeunes, les plus modestes et les soignants. Ce deuxième confinement sera en revanche moins sévère que le premier. Les écoles resteront ouvertes, le travail pourra continuer, les EHPAD pourront accueillir des visites. Retour sur les annonces avec Pierre Neveu.
Emmanuel Macron devait expliquer et convaincre. C'était sa mission pour faire accepter de nouvelles mesures plus contraignantes. Est-ce que nous avons tout bien fait ? S'interroge le chef de l'État. Sa réponse est non. Mais il assume pleinement sa responsabilité de protéger tous les Français et de reconnaître « Nous sommes aujourd'hui submergés par l'accélération soudaine de l'épidémie ». Sans dramatiser, mais en faisant œuvre de pédagogie, le chef de l'État décrète un nouveau confinement à partir de vendredi pour protéger les plus fragiles, les plus jeunes, les plus modestes et les soignants. Mais aussi pour protéger l'économie. « Je ne crois pas à l'opposition entre santé et économie », assure le chef de l'État. « L'activité doit continuer, l'économie ne doit ni s'arrêter ni s'effondrer ». C'est pourquoi il invite les entreprises à la généralisation du télétravail, partout où c'est possible, mais il demande un nouvel effort au commerce non essentiel, les bars, les restaurants devront fermer, et d'assurer que l'État maintiendra les aides pour les entreprises, le quoi qu'il en coûte se poursuivra. Dans cette nouvelle annonce de confinement national, Emmanuel Macron donne une inflexion aux mesures du printemps dernier, en annonçant l'ouverture des crèches, des écoles, des collèges et des lycées. Le chef de l'État en appelle à la responsabilité de tous. « J'ai confiance en nous », dit Emmanuel Macron, qui demande de ne pas céder au poison de la division. Message qui s'adresse notamment à la représentation nationale, invité aujourd'hui à voter les mesures que présentera Jean Castex devant les deux chambres.
Suite à ces débats, le Premier ministre en compagnie des ministres en première ligne détailleront aux alentours de 18h30 l'ensemble des mesures qui vont entrer en vigueur la nuit prochaine, donc dès demain. Il faudra une attestation de sortie pour justifier de ses déplacements pour le travail, les courses de première nécessité, les soins médicaux, l'assistance à un proche ou encore la fameuse promenade d'une heure dans un rayon d'un kilomètre autour de son domicile. Emmanuel Macron a donc annoncé hier soir que les écoles, collèges et lycées resteraient ouverts pendant la nouvelle période de confinement avec des protocoles sanitaires renforcés mais dont on ignore encore les dispositions. Les universités, elles, resteront fermées et les cours seront donnés en ligne. L'objectif de cette décision a été clairement donné par le chef de l'État, ne pas priver d'instruction, d'éducation et de contact les jeunes avec le système scolaire. Et du côté des parents d'élèves, c'est un soulagement tout de même teinté de nombreuses craintes. Alix Rivière est coprésidente de la FCP. 93.
Je suis soulagée pour l'ensemble des élèves qui ne vont pas de nouveau repartir dans une période un peu complexe, d'autant qu'en plus on sait que ces périodes-là sont propices à replonger vers les réseaux sociaux, donc c'est plutôt effectivement une bonne nouvelle. Maintenant la vraie question c'est l'équilibre à trouver pour ne pas faire exploser les liens en réanimation. Néanmoins, on est persuadé que dans les élèves qui vont continuer à être scolarisés, il y aura des cas positifs, asymptomatiques ou pas. Et nous réitérons réellement la vraie question du suivi scolaire à distance et de la pédagogie à distance pour ces élèves-là. Donc là-dessus, on va continuer de demander à l'Éducation nationale d'assurer le suivi scolaire de ces élèves. J'espère que l'Éducation nationale va anticiper sur ce phénomène nouveau qui va forcément apparaître et peut-être revoir les emplois du temps en fonction aussi de ces nouvelles contraintes.
Alix Rivière de la FCPE de Seine-Saint-Denis, jointe par Stéphane Geneste. Qui dit reconfinement dit bien entendu impact sur l'économie. Il y aura un soutien des entreprises pendant toute cette période, a assuré Emmanuel Macron. Un plan d'aide spécial sera d'ailleurs mis en place pour les plus fragiles, Annabelle Grolier.
C'est surtout aux petites et moyennes entreprises que s'est adressé le président. Elles sont les plus touchées, mais aussi les plus fragiles. Tous les commerces de proximité qui vont devoir fermer, comme les libraires, les coiffeurs, les fleuristes, et évidemment les bars et les restaurants, pourront toujours s'appuyer sur le dispositif de chômage partiel. Dispositif prolongé jusqu'à la fin de l'année, avec la prise en charge à 85% par l'État, qui avait déjà été annoncée en début de semaine. S'y rajoute la prise en charge jusqu'à 10 000 euros de la perte d'exploitation, des mesures de trésorerie pour les charges et les loyers des prochaines semaines. semaines. Bercy travaillerait en effet sur une aide fiscale pour inciter les bailleurs à réduire les loyers demandés aux entreprises, sans doute via un crédit d'impôt. Ces aides seront-elles suffisantes? L'UDP, l'Union des artisans et des commerces de proximité, se disait pessimiste hier soir. Les charges s'accumulent, il y a des loyers en retard et les premiers remboursements des prêts garantis par l'État vont tomber au mois de mars. Nous allons perdre tout un pan de notre économie, prédit son président Laurent Munro, qui hier soir s'interrogeait également sur l'équité de ces fermetures. Y a-t-il beaucoup plus de risques à fermer la boutique du coin de la rue que la grande surface qui est à côté, se demandait-il. Pour les travailleurs indépendants, même inquiétude, alors qu'ils ne bénéficient plus d'aucun soutien depuis 4 mois, dénonce-t-il. Emmanuel Macron leur promet un plan spécial qui devrait leur être détaillé ce matin. Le gouvernement en a-t-il les moyens? Le ministre délégué chargé des comptes publics, Olivier Dussopt, estime qu'un mois de confinement représente 10 milliards d'euros de dépenses d'intervention et ce serait à peu près ce qui reste sur l'enveloppe d'aide pour 2020.
Le reconfinement va provoquer des dégâts économiques et humains considérables, alerte également le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux. Un secteur particulièrement en crise, d'ailleurs, a été oublié par Emmanuel Macron, celui de la culture. Fermeture à nouveau des cinémas, des musées, tout le secteur est à l'arrêt et réagit déjà à l'annonce de reconfinement. Syndicat de l'édition, syndicat de la librairie et des écrivains appellent ce matin le gouvernement à laisser les librairies ouvertes. Cet après-midi, la crise sanitaire sera également au menu d'une réunion par visioconférence des dirigeants européens. Quasiment toute l'Europe est confrontée à la nouvelle vague. Cette réunion aura pour but de tenter une nouvelle fois de coordonner les politiques de lutte contre le coronavirus, politique qui reste disparate à ce jour à travers l'Union. Bertrand Galichet.
8 mois après le début de la pandémie en Europe, la coordination entre les 27 face au virus reste balbutiante. Au moment où déferle la deuxième vague de Covid-19, les appels lancés hier par Ursula von der Leyen permettent en creux de le comprendre. Par exemple, lorsque la présidente de la Commission européenne est obligée de réclamer un meilleur partage des données sanitaires ou une stratégie commune sur les futures vaccinations. Ursula von der Leyen tente de donner l'exemple en mobilisant 100 millions d'euros pour acquérir des tests qui seront distribués à tous les États membres, mais l'harmonisation de la quarantaine reste à mettre en place, de même que les règles applicables aux voyageurs au sein de l'Union européenne. La présidente de la Commission plaide pour un formulaire commun de localisation des passagers. Cet après-midi, les 27 vont tenter de s'accorder dans l'urgence, alors que beaucoup d'entre eux doivent gérer séparément de nouvelles mesures hétérogènes, du reconfinement au couvre-feu, en passant par les fermetures de commerce.
Bertrand Galichet, changement de continent. La présidentielle aux États-Unis, c'est mardi prochain et dans la dernière ligne droite de la campagne, l'Arizona est au cœur de la bataille. Chacun de leur côté, Donald Trump et Kamala Harris ont sillonné hier ce grand état du sud-ouest des États-Unis. L'Arizona est habituellement un bastion républicain, mais désormais c'est un nouvel état pivot. Joe Biden a de l'avance dans les sondages et ceux qui détiennent peut-être la clé de ce scrutin dans cet état, ce sont les Latino-Américains. Reportage de Benjamin Hilly.
Breaking news. Chaque jour, la radio fait les comptes. Combien de nouvelles contaminations en Arizona? L'Arizona est l'un des États américains les plus touchés par l'épidémie. En première ligne, la communauté latino. Le virus a fait des ravages dans les familles, dans les quartiers populaires de Phoenix.
Et toi, Blan, en espagnol, c'est qui est là? Okay. Adrian, il a 41 ans, il est cuisinier, il vient de se faire tester. Négatif.
Yes, sir.
Adrian n'avait pas voté en 2016, mais cette année, son choix est fait.
Yo digo que Biden sería mejor. Sinceramente,
Biden, ce serait mieux. Franchement, le président actuel n'a rien fait contre ce virus. La seule chose qu'il a fait, c'est de bouleverser nos communautés. Cette année, nous devons ouvrir la bouche et dire tout haut ce dont nous avons besoin pour sortir de cette crise. C'est un point essentiel de nos votes. Les latinos représentent près d'un quart des électeurs en Arizona. 100 000 jeunes latinos ont atteint l'âge de voter depuis 2018, selon Chicanos por la Cosa, une organisation communautaire très influente. Le président David Adame dit c'est un bulletin dans l'urne, montrer à notre pays que le vote latino est un vote clé. Ils ont besoin du vote latino pour gagner une élection. Et le vote latino, c'est vrai, pesait déjà lourd en Arizona en 2016. Donald Trump avait remporté l'État avec seulement 90 000 voix d'avance.
Benjamin Hilly. La météo, le temps ce jeudi sera maussade sur une large moitié nord du pays, plus ensoleillé dans le sud, avec tout de même de la pluie sur le centre du pays ce matin et dans la région nord cet après-midi. Les températures minimales seront comprises entre 7 et 15 degrés, les maximales entre 12 et 22. Il est 6h40 sur France Culture, c'est l'heure du journal des idées. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Adrien Toffolet.
Le petit Robert est orphelin, Alain Ray est mort, le lexicographe, pardon, amoureux des mots, nous a quittés dans la nuit de mardi à mercredi, il avait 92 ans.
Oui, et dans la série biographique du journal Le Monde, je ne serais pas arrivé là si il évoquait en septembre 2019 son goût précoce pour les mots. À l'école, je dessinais des espèces de schémas en écrivant, par exemple, toutes les parties d'un bateau, les cacatois, les artimons n'avaient aucun secret pour moi. Et sur le site du quotidien, Lucien Gedvab lui rend hommage. Alain Ray fut à cheval sur deux siècles un héritier érudit, mais toujours modeste, des humanistes de la Renaissance, de Rabelais surtout qu'il pratiquait au quotidien. Rabelais qu'il décrivait ainsi, création absolue, liberté totale, capacité à cacher une philosophie derrière des conneries enfantines, mélange de la narrativité et de la liste. C'était un grand lexicographe. La première édition du Petit Robert date de 1967. Elle est due à une collaboration avec Josette Ray de Bove, son épouse, lexicographe et sémiologue, et Henri Cottez, normalien et helléniste. La nouveauté par rapport à son concurrent, le Petit Larousse illustré, une plus grande ouverture aux Français du Québec ou de Bruxelles, une aptitude à capter l'air du temps, à intégrer les mots de tous les jours, y compris les onomatopées et les mots argotiques. Alain Ray n'hésite pas à illustrer les définitions par des exemples issus de la littérature vivante, de Céline à Frédéric Dard en passant par Raymond Queneau. Le Petit Robert est à sa manière un enfant de mai 68. Depuis lors et jusqu'au 50e anniversaire en 2017, la méthode se perpétue. Chaque année, c'est par milliers que surgissent de nouveaux mots, déclarait-il alors à l'hebdomadaire Le 1. Nous procédons à une vérification à partir des mots repérés par notre service de documentation dans la littérature et dans les médias. Nous en retenons à peu près 10%. Parmi ces mots nouveaux, 60% sont des emprunts, souvent en provenance de pays voisins, mais aussi de pays très lointains, comme le Japon, dans le domaine culinaire ou celui des arts martiaux. Et puis, il y a les sortants. L'une des techniques pour repérer ces mourants consiste à évaluer leur occurrence sur Google. À 10 000, le plancher, c'est la trappe, car un mot d'usage courant peut avoir 20 millions d'occurrences. La doctrine de l'Académie française, c'est que les termes dont la suppression est envisagée doivent être sortis de l'usage depuis longtemps et n'avoir guère d'attestation littéraire. Certains sont juste remplacés, ainsi en Angelais, pour Angelot, butant pour arc-boutant, crassé pour s'encrasser, ou dégénération par dégénérescence. Et d'autres font retour après un temps d'éclipse flagrance qui désigne une infraction qui se commet sur le champ de manière évidente. Introduit dans le Petit Larousse de 1908, on est ressorti après 90 années de bons et loyaux services, puis réintégré en 2012, de même clampin ou pécamineux relatif au péché. En 1992, Alain Ray publie la première édition du Dictionnaire historique de la langue française. Le Figaro littéraire note alors que les mots deviennent des fenêtres sur l'histoire. 40 000 articles, deux gros volumes sur papier Bible, en principe destinés à des bibliothèques, et qui se vendent à quelques 100 000 exemplaires la première année. Décrire correctement les mots, c'est décrire une époque, une manière de penser, disait-il. Je me suis toujours intéressé à la dimension sociale et politique des mots, parce que le côté formel de la linguistique ou de la philologie ne me satisfait pas. On ne peut pas faire de l'histoire sans faire de l'histoire lexicale. Dans le Figaro, Alice Develay se rappelle son étonnante collection de cravates et de chemises bariolées. On s'étonne qu'il n'ait jamais accepté de troquer ses vêtements pour le costume vert. Mais on sait depuis Furtière que les relations ne sont jamais simples avec l'Académie dès qu'il s'agit de dictionnaires. Elle rappelle qu'il eut pour ambition de rabibocher le vieux et le jeune français. C'est ainsi qu'il s'efforça toujours à introduire des mots d'aujourd'hui dans ses dictionnaires. Oui, ajoute-t-elle, le daron du petit Robert kiffait la langue. Un de ses derniers ouvrages, illustré par des calligraphies de Lassad Metoui, raconte le voyage des mots de l'Orient arabe et persan vers la langue française. où il montre que les langues sont sans patrie et se jouent des frontières. Les auditeurs de France Inter se souviennent encore de sa chronique matinale entre 1993 et 2006, son titre « Le mot de la fin ». Sur le site Le Robert, entre autres curiosités lexicographiques, le mot du jour revient à un tweet de Laëlia Véron qui évoque la prochaine rentrée scolaire. Chez vous, la rentrée, ce sera en distanciel ou en présentiel? Plutôt en démerdentiel. (rire) 6h45 sur France Culture, c'est l'heure des enjeux internationaux avec vous, Julie Gacon, bonjour.
Bonjour Jacques, j'aime bien le mot enchiffrené, moi. Ça veut dire qu'on a le nez bouché et mal à la tête, c'est d'actualité.
Excellent, oui, tout à fait.
Je crois que c'est Alain Rey qui me l'avait appris.
Au programme des enjeux internationaux, le dialogue interlibyen reprend sous l'égide de l'ONU.
Oui, depuis la démission en mars dernier du représentant des Nations Unies pour la Libye, Hassan Salamé, qui déplorait le manque de bonne volonté des acteurs de ce dialogue, c'est une diplomate américaine qui a repris le flambeau par intérim, Stephanie Williams. C'est donc elle qui est chargée de suivre et d'encourager le dialogue entre les deux parties qui se toisaient sur le terrain il y a quelques semaines encore. D'un côté, le gouvernement d'accord national installé à Tripoli, reconnu par l'ONU. De l'autre, le maréchal Haftar et ses troupes. Régnant sur l'Est et une partie du Sud, l'appui de la Turquie a permis aux premiers de reprendre l'avantage en juin sur les seconds. Et avant une grande réunion interlibyenne qui commencera la semaine prochaine à Tunis, les Nations Unies ont obtenu il y a quelques jours un cessez-le-feu signé par toutes les parties libyennes, tournant important vers la paix et la stabilité, veut croire l'ONU. Bonjour Jalel Archaoui.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes spécialiste de la Libye à l'Institut des Relations Internationales des Pays-Bas. Pour qu'il y ait un vrai accord de cessez-le-feu, il faut qu'il y ait un feu à cesser par définition. Est-ce que les combats auraient continué en Libye ces dernières semaines sans qu'on le sache?
Non, c'est pas la problématique numéro un en ce moment. Il n'y a pas d'échange de tirs, il n'y a pas de violence militaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tension. Mais disons que la première priorité véritablement est plutôt institutionnelle. Il s'agit d'essayer de former pour la première fois depuis l'arrivée des Turcs, l'arrivée des Russes, des Émiratis, etc. Toutes ces présences étrangères qui sont devenues beaucoup plus franches cette dernière année. Eh bien, il s'agit pour l'ONU de créer malgré tout un nouveau gouvernement d'unité nationale qui soit accepté à travers l'ensemble du pays. Et essayer d'éviter une partition. Donc c'est pas tellement une question de problème, c'est pas une question de cesser le feu. Il s'agit plus de trouver un nouveau gouvernement avec un nouveau conseil présidentiel et ainsi de suite.
Alors pour rester un tout petit peu sur la question militaire, d'après le document paraphé par toutes les parties libyennes à Genève, les unités militaires et les groupes armés présents sur place doivent déserter les lignes de front dans les 3 mois. Est-ce qu'on a une idée de combien de personnes ça représente dans chaque camp?
Bah, on peut déjà commencer par les troupes non libyennes. Il y a à peu près en ce moment en Libye 3000 mercenaires russes, un petit peu moins peut-être, 2500 à 3000. Il y a 2000 mercenaires syriens du côté du maréchal Haftar. Il y a encore grosso modo 4000 Syriens dans la zone de Tripoli du côté pro-turc, donc le gouvernement d'entente nationale. Il y a 3000 Soudanais. Il y a beaucoup de combattants non libyens. Et bien sûr, il y a mobilisé, je dirais, à peu près 5000 ou 8000 combattants libyens de chaque côté.
Et des Turcs?
Les Turcs, ce sont plutôt des conseillers militaires. Il y a à peu près 700 ou 800 officiers ou espions turcs qui sont effectivement sur le sol de la Tripolitaine. Ils ne sont pas dans une fonction de combat, en tout cas pas officiellement. Ils se font concentrer sur le fait de former les combattants libyens et de coordonner un petit peu les efforts de guerre si ces efforts de guerre reprennent. En tout cas, c'était leur rôle pendant la première moitié de 2020.
Et c'est vrai que le feu s'était tu en juin, mais à plusieurs reprises, l'ONU a dit que l'embargo sur les armes n'était absolument pas respecté. Notamment, les Turcs continuent à vendre des armes, on va y revenir. Quel est l'objectif, puisque donc cet accord de cessez-le-feu sous l'égide de l'ONU, mais dont Erdogan d'ailleurs dit qu'il n'est pas très crédible, c'était un préalable à la reprise des pourparlers politiques. Jalel Archaoui, quel est l'objectif de ces discussions interlibyennes, 4 ans après la mise en place d'un gouvernement dit d'accord national sous l'égide des Nations Unies, avec le succès que l'on sait?
Bah, encore une fois, j'ai vraiment zéro espoir par rapport à un départ des forces non libyennes. La présence émiratie, la présence russe, la présence turque, tout cela va demeurer. Il n'y a absolument, à mon sens, aucune probabilité qu'il y ait un allègement de ce côté-là. Il y a l'espèce d'équilibre des forces qui s'est instauré et je ne pense pas que ça va s'estomper. Et à la limite, ce n'est pas forcément le premier obstacle à l'étape suivante pour l'ONU. Comme je le disais tout à l'heure, il s'agit surtout de dévoiler, d'inaugurer, de faire accepter un nouveau conseil présidentiel, de faire accepter par l'ensemble de la Libye, l'Est et l'Ouest, et immédiatement après embrayer sur la création d'une espèce de cabinet, d'un gouvernement qui fasse cohabiter, c'est un gouvernement de cohabitation, donc d'unité nationale, où il y aurait des Libyens pro-turcs, des Libyens anti-turcs, et qui travailleraient ensemble et qui pourraient administrer l'ensemble du pays. Donc c'est très très ambitieux. On sent un grand optimisme de la part des médiateurs et des diplomates de l'ONU et des Allemands et ainsi de suite. On va savoir ça dans les semaines qui viennent. Moi, je reste assez sceptique.
C'est vrai que entre l'Est et l'Ouest, la culture politique est très différente. Entre la Cyrénaïque à l'Est, dont vient le maréchal Haftar, et la Tripolitaine à l'Ouest. Pour Haftar, par exemple, il est impossible d'imaginer qu'on laisse la moindre place à l'islam politique. C'est pas pour rien que le maréchal Haftar est proche de l'Égypte en ce sens. Or, côté gouvernement soutenu par la Turquie, il y a peut-être la volonté affichée aujourd'hui de faire cette place à l'islam politique. Est-ce que les discussions vont aussi porter là-dessus ?
La Turquie est pour l'instant considérée déjà elle-même comme problème. C'est-à-dire qu'elle aurait pu armer d'une manière beaucoup plus agressive des milices qui soient ouvertement islamistes. Et pour l'instant, la Turquie ne l'a pas fait cela. C'est sa présence, c'est simplement le fait qu'elle soit là, qu'elle ait une base aérienne la plus grande de Libye, qui est à côté de la frontière tunisienne, qui est aujourd'hui, d'une manière permanente, turque. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune intention de la part des Turcs de partir. Donc, c'est plus des nationalismes qui s'entrechoquent que vraiment une question d'islam politique. De même que du côté de l'Est, il ne s'agit pas vraiment... Le maréchal Haftar, il a 77 ans. Il a fini cette année avec plusieurs humiliations, des défaites. Le camp de l'Est va survivre à la disparition. In fine, il va devoir quitter la scène. Et je pense que le camp de l'Est va rester soutenu par l'Égypte, par la Russie. Et donc il ne s'agit pas vraiment de la personnalité de Haftar à ce stade. Même s'il reste, effectivement, il a encore le contrôle de certaines brigades et il pourrait saboter le processus diplomatique encore, mais il pourra plus jamais faire ce qu'il a fait en 2019 ou durant la première moitié de 2020.
Jalel Harchaoui, le représentant des Nations Unies pour la Libye, Hassan Salamé, avait démissionné en mars en accusant les institutions libyennes de bloquer le processus politique. Sa remplaçante par intérim, l'américaine Stephanie Williams, dit souhaiter pour des gens qui ne sont que les gens qui sont là pour le dialogue interlibyen ne soient pas là pour leur propre carrière politique, mais pour leur pays. Est-ce que les problèmes demeurent aujourd'hui ? Qui a intérêt à ce que cette crise perdure ?
Je dirais qu'il y a deux grandes différences par rapport au moment où Hassan Salamé a démissionné, donc début mars. Il y a la défaite du maréchal Haftar. C'est un pas vers une forme de paix. Quand un camp se prend une raclée, c'est toujours un pas vers la paix, hein, en théorie en tout cas. L'autre grand changement, c'est que la Turquie et la Russie, qui sont donc des adversaires hein, dans le théâtre libyen, communiquent. Ils communiquent d'une manière quotidienne. Donc ça, c'est un petit peu un style de diplomatie un peu à 19e siècle. C'est-à-dire que les adversaires arrivent à coordonner, à s'entendre, à parler. Donc finalement, la donne diplomatique est un peu moins revêche, un peu moins sévère qu'en mars. Mais le comportement des 75 Libyens qui ont été donc invités à faire partie de ce dialogue politique, même si individuellement, ils ne briguent pas des positions, ils n'aspirent pas à des positions politiques directement, ils continuent à agir au nom des différentes factions qu'il représente. Et la mentalité reste quand même d'abord une mentalité de sabotage, de part et d'autre.
Et Fayez Sarraj, le chef du gouvernement reconnu par l'ONU, devait démissionner. Il avait annoncé qu'il le ferait en octobre. Il a encore 2 jours pour le faire. C'est un préalable au succès des négociations.
Vous savez, c'est pas simplement le président Erdogan qui lui a demandé de rester il y a quelques semaines. Il y a aussi l'ambassadeur américain qui lui a publiquement demandé de rester. Donc, si si vous me posez la question, la probabilité pour que Fayaz Al-Sarraj soit absent de son poste le 1er novembre est égale à zéro. Il va rester. Le processus de l'ONU n'avance pas au même rythme que ce qui avait été prévu. Hein. Encore une fois, on retombe sur le thème de l'optimisme de l'ONU. Et il y a aussi le fait que quand un homme politique libyen annonce sa démission des semaines à l'avance, il faut pas le prendre au mot.
Pour conclure, Jalel Harchaoui, qu'est-ce que la Turquie attend de ces pourparlers? Pourquoi s'accroche-t-elle à ce point à ce théâtre libyen, à ce dossier libyen? Qu'a-t-elle à y gagner à ces pourparlers?
Tout d'abord, le seul Libyen pour la Turquie, ce n'est pas que la Libye, ce n'est pas que la Méditerranée orientale, c'est aussi un passage vers le Sahel et l'Afrique d'une manière générale. Donc déjà, ne serait-ce que pour cette raison-là, la Turquie, il faudra vraiment l'humilier et la défaire militairement pour qu'elle s'en aille. Deuxième priorité, beaucoup plus court terme, et sous forme presque d'obsession de la part des Turcs, c'est de se faire payer. C'est de s'assurer que les entreprises turques qui ont dû partir un petit peu en catastrophe en 2011 et avec une ardoise qui leur est due, donc de 18 milliards de dollars, bah, qui récupèrent un morceau de ces 18 milliards de dollars et si possible signer de nouveaux contrats pour faire partie de l'aventure qui serait donc une reconstruction de la Libye après 10 ans de guerre. Donc le fait d'être payé tout de suite dans les mois qui viennent, c'est vraiment la hantise des Turcs et pour l'instant ils ne font pas de progrès dans ce sens.
Voilà, chaque drone turc coûte à peu près 2,5 millions d'euros. Voilà, le gouvernement de Fayez Al-Sarraj en a commandé un certain nombre. Merci beaucoup Jalel Harchaoui d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes spécialiste de la Libye à l'Institut des Relations Internationales des Pays-Bas. Bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
L'élection américaine, un enjeu mondial. Sur France Culture, une programmation exceptionnelle consacrée à l'événement.
This guy will close down the whole country.
Everybody knows he's a liar.
Reportage, rendez-vous de la rédaction de France Culture. Magazine, toutes les disciplines au rendez-vous. Documentaires et podcasts. Portrait des États-Unis d'aujourd'hui, à la veille de l'élection présidentielle. Et le 3 novembre, une nuit américaine. Pour suivre en direct la progression et l'analyse du scrutin. L'élection américaine, un enjeu mondial. Sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Vous écoutez France Culture, 6h57. Bonjour Guillaume Herbert.
Mais bonjour Julie Gacon, bonjour à toutes et à tous.
Votre humeur du jour, Guillaume, est prophylactique, pour reprendre les beaux mots d'Alain Rey, puisque vous voulez nous expliquer comment vous avez cessé de fumer.
Ben oui, je me suis dit, Julie, qu'il n'y avait rien de plus urgent ni de plus actuel que ma recette pour arrêter de fumer. Il m'est arrivé, naguère, je vais vous faire une confidence, on se connaît un peu maintenant, Julie, d'être au bout de ma vie, dans une conjonction singulière de superfels et autres revers de fortune, lesquels avaient considérablement dégradé mon confort de vie.
Mince.
Je me disais donc que je vivais une sorte de VDM. Vous chercherez la signification de cet acronyme.
On connaît.
Il me fallait gagner donc de l'espérance de vie, rattraper dans un futur plus ou moins lointain ce morceau de vie inutile, désagréable. Rien n'était alors plus pertinent que d'en finir avec la cigarette, laquelle me consumait au moins là-dessus. Tous les épidémiologistes sont d'accord et pas que. Alors figurez-vous que cette routine mentale a fonctionné puisque j'ai cessé du jour au lendemain de fumer, transformant ainsi une série de moments désagréables en une victoire personnelle profitable sur la cigarette. À ce stade, je crois que vous avez compris l'association d'idées qui me conduit ce matin au lendemain d'un confinement que je ne peux même pas appeler second, de peur qu'il y en ait un troisième.
Vous regrettez.
Je pense que nous avons tous, non, au contraire, nous avons tous la sensation de vivre une VDM, d'être un peu au bout de notre vie. Il est temps pour vous, je ne sais pas moi, d'arrêter de fumer, de vous droguer, enfin bref, de faire quelque chose pour gagner de l'espérance de vie parce que ça va être long. Alors ce qui m'a un peu glacé dans le discours d'Emmanuel Macron hier soir, je veux dire en dehors de l'annonce de la punition, vous savez, c'est une phrase en apparence anodine, je vais vous la citer. Je sais la lassitude, cette impression d'un jour sans fin qui tous nous gagne. Jour sans fin, vous le savez Julie, c'est pour la première fois dans l'histoire de la 5e République, un président qui fait référence à Groundhog Day, un film d'Harold Ramis sorti en 1993 où Bill Murray interprète un fort peu aimable présentateur météo chargé de couvrir le traditionnel jour de la marmotte en Pennsylvanie et qui se retrouve coincé dans une boucle temporelle, le condamnant, à revivre la journée la plus ennuyeuse de son existence. Emmanuel Macron a cité Bill Murray. Alors je ne vous dirai pas comment se termine ce film, si vous ne l'avez pas vu, pour ne pas le divulgâcher, parce que vous allez avoir du temps pour le voir. Ce film, il dure 101 minutes, alors que la période que nous traversons, pour le moment, on n'en voit pas complètement la fin.